Quel bonheur, mes frères et sœurs, pour moi, et quel honneur de m'adresser à un peuple de vainqueurs. Un peuple de vainqueurs. Un peuple de vainqueurs. Mes frères et sœurs, avec Dieu, on est toujours surpris. On fait des choses formidables. Et je voudrais vous emmener vers le miracle des miracles. Un miracle qu'on ne parle pas souvent, et pourtant c'est le plus important. C'est l'un des plus importants. Dans la Bible, vous allez trouver avec moi dans quelques instants un miracle incroyable, mais alors vraiment incroyable, incroyable. Ça ne s'était jamais vu avant. Et quand je pense que celui qui a fait ce miracle, c'est mon Dieu, mon Père, et que ce Dieu est Père, il est là. Alors, je m'attends à ce que le Seigneur fasse quelque chose d'admirable. Je vous demande pardon, la lecture est un peu âpre. Elle se trouve dans un prophète, et j'ai demandé à mon frère, Claude Gentil, pasteur, de bien vouloir le lire, afin de pallier à certaines défaillances de mes cordes vocales qui ont un bémol en dessous. Et pour pas que je reste avec un dièse et une syncope, le frère va vous faire la lecture. Alors, écoutez bien, c'est Ézéchiel 47 à partir du verset 6. C'est pas évident, mais dites-vous bien que ce texte, mes frères et sœurs, c'est pour chacun d'entre nous en particulier.
Livre du prophète Ézéchiel. Chapitre 47, à partir du verset 6.
Jesus slide away.
Voilà, alors, si tout le monde est à la page, nous faisons la lecture. Donc, je fais la lecture. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saine. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Glaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis et seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Le feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède, et nous pouvons dire...
Amen. Merci, Claude. Les frères et sœurs, vous pouvez peut-être vous demander quel rapport y a-t-il entre ce texte et votre vie. Vous allez voir. Entre ce texte et votre famille. Entre ce texte et vos découragements. Il nous est parlé dans ce texte de la mer. De quelle mer? de la mer morte. La mer morte. C'est un grand lac énorme qu'il y a en Israël. Et vous avez qu'à remarquer, frères et sœurs, que lorsque le fleuve, on va en parler tout à l'heure, est rentré dans cette mer morte, qu'est-ce qui s'est passé? La mer morte a été guérie et la vie est revenue en elle. C'est pas un miracle, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Une eau salée qui porte la mort. Attendez, je ne sais pas si vous avez été en Israël, mais allez en Israël, j'y suis allé, baignez-vous en Israël, je me suis baigné, baignez-vous dans la mer morte avec une petite coupure et vous en direz des nouvelles. La mer morte, mes frères et sœurs, c'est l'endroit sur la terre le plus bas. Il n'y a pas plus bas que la mer morte. Et il n'y a aucune vie, ni autour, ni dessus, ni en dessous. C'est la mort qui règne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle la mort, la mer morte. Or, ce qui est formidable dans ce texte, et ce qui a étonné Ézéchiel, c'est que cette mer morte va être tellement guérie que la vie va être tellement en elle qu'il va y avoir une grande quantité de poissons, des poissons même qui viennent des océans, de la grande mer, et en plus de ça, il y aura des arbres tout autour, et en plus de ça, il y aura des feuilles, et en plus de ça, il y aura des fruits dans un endroit le plus maudit qui soit. Alors je disais au Seigneur, j'ai discuté avec lui là-dessus, « Seigneur, tu mets sur mon cœur de dire ça à mes frères et sœurs à la porte dorée dimanche, mais c'est quoi ?» Il me dit, « Moïse, dis-toi bien que dans chaque famille, il y a un endroit où il y a une mer morte. C'est-à-dire un endroit dans votre vie, dans ma vie ou dans nos vies, qu'on n'espère plus rien. On dit, c'est fini, on ne s'en sortira pas. Nous avons tous une mer morte dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit me disait, insiste là-dessus et dis-leur que moi, l'Éternel, le Dieu vivant, si on me laisse pénétrer à l'intérieur, la mort deviendra vie. Satan sera vaincu.
Amen.
L'enfer sera vidé et le ciel sera comblé. Oui, mes frères et sœurs. Alors, pendant quelques instants, quelques minutes, essayons d'identifier notre mère morte dans notre cœur, nous, chrétiens, mais aussi dans nos foyers, mais aussi dans notre famille, mais aussi dans notre immeuble autour de nous, mais aussi, si vous le voulez, dans la ville. La vision du prophète Ézéchiel, c'est une chambre d'horreur, la mer morte. C'est un endroit de désolation. Vous êtes d'accord? C'est un endroit maudit. C'est un endroit qui pue la mort, qui sent la mort. C'est l'endroit non seulement le plus bas de la terre, mais qui est incapable de donner la vie. Mes frères et sœurs, regardons notre pays. Regardons notre monde aujourd'hui. N'avez-vous pas l'impression qu'on vit dans une mer morte? Nos villes deviennent des chaudrons bouillants de violence. Les femmes n'osent pas sortir. Elles sont agressées, violées, tuées. Là, le vieillard, ou même l'adulte, il n'y a aucune sécurité dans le monde aujourd'hui. Et vous avez remarqué, nous vivons ensemble le même monde, mes frères et sœurs, et nous avons remarqué que nos villes sont remplies de vices et de crimes. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on va tuer un innocent qui n'est pas encore né et on va gracier un criminel qui a tué. C'est le monde dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas appelés à le juger ni à le condamner. Nous sommes appelés à le constater. Oui, Seigneur, on vit dans une mer morte où le crime l'emporte. Et vous savez que Dieu aime dialoguer. Et toujours dans le prophète Ésaïe, bien avant, il y a un texte qui nous parle de la vallée des ossements. Et Dieu dit à Ézéchiel, « T'as bien vu, Ézéchiel ?
Oui.
Ézéchiel, crois-tu que ces os peuvent revivre ? Ézéchiel répond, parce que Ézéchiel, c'est un prophète normand, ça, Dieu, tu le sais. Mes sœurs et mes frères, il y a dans nos vies et dans nos familles et dans nos foyers des mères mortes. Elles ont des noms. C'est des fois des personnes. C'est des fois des fils, des filles, des maris, des femmes, des cousins, des cousines. Croyez-vous vraiment que ça peut changer chez eux? Croyez-vous vraiment que le miracle peut se produire? Vraiment? Regardez-moi et dites-le. Regardez là-haut et dites oui. Bravo! Alors si c'est ça, ça va se produire. Vous allez voir. On va découvrir ça dans l'Écriture. Car, vous avez remarqué la première phrase qu'a lue le pasteur Paul Gentil. Où Dieu dit à Ézéchiel, quoi? As-tu bien vu? Oui, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut qu'on soit bien conscient d'une chose. Regarde bien ta mère morte. As-tu bien vu? Oui. As-tu bien compris? Dieu sait que cette vision étonne le prophète. Est-ce que vraiment une mère morte peut apporter la vie? As-tu vraiment vu? Et tout de suite, vous savez, ça m'a fait penser à ce texte de Jésus qui dit « Heureux ! Êtes-vous de voir ce que vous voyez et de ce que vous entendez. Beaucoup de prophètes et de rois ont désiré et n'ont pas trouvé. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur ce matin veut nous dire la même chose. Comprends bien. Jésus dira à ses apôtres, vous avez un privilège que les rois et les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas eu. Maintenant, écoutez, dit-il. Venez écouter, c'est-à-dire ne manquez pas l'enseignement de ce texte. Parce que ce texte va nous permettre de bousculer toutes les oppositions sataniques des lois qui sont autour de nous et dans notre famille. As-tu remarqué? Quoi? La mer morte, bon, oui, ça y est, on l'a vu. La ville dans laquelle on vit, c'est vrai. Le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est le monde entier qui a peur. Et qui vit dans l'angoisse. Tournons la page. Et qu'est-ce qui va changer cette mère morte? Dites-moi, frères et sœurs. Est-ce que l'écologie va changer la mère morte? Non, rien. Oui, pasteur, que gentil m'a soufflé. Qu'est-ce qui va faire ça? Un torrent. Or, un torrent, c'est pas un petit fleuve tranquille, hein. Un torrent. Un fleuve. Un grand fleuve. Qui sort, et quand il rentre dans la mer est guérie. Croyez-vous que c'est vrai? Bon. Un torrent. Qui, dans le Nouveau Testament, a parlé de torrent de vie? Qui jaillit jusqu'en vie éternelle? Qui a parlé d'un torrent de vie? Jésus de Nazareth, vous me suivez. Et l'Écriture nous montre que ce torrent va apporter la vie. Question. D'où sort ce torrent? Du cœur de Dieu, de la maison de Dieu. Vous avez raison. Donc l'origine de notre espérance et du miracle vient bien de la présence de Dieu. Le fleuve sort de la maison de Dieu, là nous sommes tous d'accord. Maintenant, si vous connaissez le texte, je vais vous poser une autre question. De quel côté de la maison de Dieu le fleuve va sortir? Parce que tout est là. Et là, on ne l'a pas lu parce que c'est juste au-dessus. Mais j'ai fait exprès. Le fleuve sort de la maison de Dieu sous le seuil de la porte, du côté de l'autel. Ah, l'autel, c'est quoi l'autel? L'autel, dans l'Ancien Testament, c'est l'endroit du sacrifice. C'est l'endroit où on offre un sacrifice pour pouvoir s'approcher de Dieu ou pouvoir l'adorer. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, l'autel, ça vous fait pas penser à une petite colline en Israël qui s'appelle Golgotha. Et sur cette colline, il y avait un bois. Et sur ce bois, c'était une croix. Et qu'est-ce qui est en train de mourir sur la croix ? La victime expiatoire de nos péchés. Le Christ vivant est en train de mourir et d'agonir. Mais attendez, c'est pas tout. Lorsqu'il est vers la fin de sa souffrance, le Romain, un soldat romain va prendre une épée et va percer son côté. Et vous avez vu ce qui sort ? Vous avez vu ce qui sort de l'autel ? Qu'est-ce qui sort ? De l'eau et du sang. Le sang qui purifie et l'eau du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, le fleuve de Dieu, il sort de Dieu et il vient de la croix. Sans la croix, il n'y a pas de victoire. Sans la croix, il n'y a pas de délivrance. Sans la croix, il n'y a pas de guérison. Sans la croix, aucun démon n'est chassé. Sans la croix, la mort règne. Mais par la croix du calvaire, Satan est vaincu. Et je veux avec vous le bénir et le louer. Oui, le Saint-Esprit est venu sur la terre avant la croix ou après la croix ? Après la croix. Donc voyez-vous, le fleuve qui va changer la mer en eau douce, sœur de Dieu, la maison de Dieu, sœur de l'autel, c'est-à-dire de la croix du calvaire. D'ailleurs, c'est ce que l'on chante. De la croix, la grâce. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Oh, venez, allez-y ! Du côté de Jésus, du côté de Jésus, est sorti du sang qui nous permet d'être enfants de Dieu, et de l'eau qui nous permet d'avoir la puissance de Dieu. L'eau. J'ai eu l'occasion, bon, il y a longtemps, d'aller à la source de la Seine. Ah ouais, très intéressant. Un tout petit ruisseau. Pas bien grand. Je crois que le petit ruisseau, il allait dans le creux de ma main. Et de la Seine, de la source, je suis venu à Paris et j'ai regardé qu'entre ma main et la largeur de la Seine, il y avait une différence énorme. Elle était devenue un fleuve. Pourquoi ? Réponse, parce qu'il y avait une quarantaine d'affluents qui se sont jetés dans la Seine. Vous êtes d'accord avec moi ? Cours de géographie normale. Mais le fleuve de Dieu, il commence par un filet qui sort de la maison. Et elle devient immense, immense, par des influents, par aucun. Il grandit par lui-même, parce que Dieu n'a besoin de personne. Dieu est assez grand pour faire ce qu'il veut. Amen. Mes frères et sœurs, c'est pour ça que toutes les méthodes, et aujourd'hui je tremble, toutes les méthodes, toutes les manifestations, excusez-moi, mais toutes les combines pour créer un mouvement, qui se fait dans les milieux évangéliques, ça déshonore Dieu. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Son esprit suffit. Il suffit de le laisser s'épanouir. Il a tout, il n'a pas besoin de nos influences. Ah oui, oui, il a besoin de nos influences. C'est-à-dire, ah oui, il faut faire quand même des stages de formation. Le fleuve de Dieu, il sort du cœur de Dieu. Il s'étend lui-même. Mes frères et sœurs, Dieu peut très bien se passer de Moïse à Roux. Et peut se passer de tout le monde. Et la Bible nous dit, s'il nous envoie, c'est parce qu'il est amour. Et c'est parce qu'il nous aime. Ainsi, ce matin, frères et sœurs, réalisons que le fleuve de Dieu n'a pas besoin de combines, d'astutions, d'organisations. Laissons la grâce de Dieu couler. D'ailleurs, vous connaissez ce texte ? Il est un fleuve coulant de la faculté. Du cœur de Dieu, c'est alors qu'est-ce que je vais faire? Et alors? Et alléluia. Renime de l'esprit. Oui, frères et sœurs, regardez, regardez. Le maître dit à son prophète, bon, regarde bien. Et ce qui étonne le prophète, c'est que le maître qui vient vers lui, il vient avec une mesure pour voir la largeur du fleuve qui va changer la mer rouge. La mer morte, non pas en mer rouge, mais en mer vivante. Et il a un cordeau et il mesure. Il me dit, viens, fils de l'homme, viens. Allez. Il prend 1000 coudées et dit, vas-y. Alors il va dans l'eau, et il a de l'eau jusqu'au sud. Après, 1000 coudées. Mes frères et sœurs, une coudée, c'est 0,45 cm. À votre avis, vous les intellectuels et les mathématiciens, 1000 coudées de 0,45 cm, ça fait combien de mètres? Pardon? 450 mètres. Bon. Vous voyez déjà un fleuve large de 450 mètres. 1000 coudées? Bon. Et Dieu, il reprend encore son maître, il dit, regarde prophète, allez, on recompte en 1000. Ça fait 2000 coudées. Ça fait combien? Oui, un certain nombre. Et il compte. Et on compte 3. Et on compte 4. 4000 coudées, ça fait combien à 0,45? Oui, un certain chiffre. Vous imaginez? Ça fait des milliers de mètres. Vous imaginez un fleuve comme ça? Eh bien, voilà comment est le fleuve de Dieu. Il est immense. Il couvre tout. Il remplit tout. Il domine tout. À son nom, ça soit la gloire. Pardon. Dieu nous pose la question. Crois-tu que la mer rouge, non, la mer morte, pardon, peut devenir vivante? Oui, Seigneur, je crois. Tu crois vraiment? Oui. Eh bien, si tu crois, tu verras. Ma sœur, mon frère, pensez maintenant à vos mères mortes. M-E-R, hein, mères mortes. À toutes ces lacs morts, maudits, qui sont encore dans nos vies, dans vos familles, et qui vous donnent beaucoup d'inquiétude. Pensez-y. Et maintenant, je vous pose la question. Croyez-vous, ce matin, frères et sœurs, que Dieu est capable de créer la vie là? Votre fils vous insultait, votre fils s'est opposé, elles ont été en boîte, ils se droguent, et plus vous leur parlez du Seigneur, plus ils s'opposent. Croyez-vous que là, ce matin, le fleuve peut aller jusqu'à eux? Il y a dans votre famille, autour de vous, peut-être quelqu'un qui se tord de souffrance par un cancer, une autre maladie. Croyez-vous que ce fleuve peut aller et lui apporter la guérison? Oui, je crois. Oui, je crois, Seigneur. Et sans l'aide de personne. Sans l'aide d'astuces, Seigneur, souffle, Seigneur, par ta grâce, coule vers le. Et regardons bien dans ce texte. Moi, je trouve qu'il est absolument magnifique. La Bible nous dit que le fleuve de Dieu, partout, ça empêche que nous de dire ceci. Ah, ben oui, moi, oui, mais mon fils, mais mon mari, mais ma femme, mais eux, c'est spécial. Dieu dit. Partout où le fleuve passe, partout, tout ce qu'il touche, il le transforme. Et ce fleuve, il est là ce matin. C'est le Saint-Esprit qui coule. Il coule du cœur de Dieu, ma sœur, mon frère. Tu as pleuré cette semaine devant des méchants profonds. Tu as pleuré cette semaine sur la souffrance de tes fils, de tes enfants, ou de ton mari, ou de ta femme opposée. Tu as pleuré, tu as souffert. Parce que tu dis même plus je prie, plus je prie, plus je prie, plus la mort est là. Eh bien, continue, parce que la mort est vaincue. Amen. Et Christ l'a vaincu sur la croix du calvaire. Mais mes frères et sœurs, si je lis attentivement ma Bible, je m'aperçois que Jésus a dit la même chose quand il dit « Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Et des ruisseaux, des gouttes d'eau, des fleuves d'eau vive jailliront de leur cœur jusqu'en vie éternelle. Mes frères et sœurs, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ce matin? Eh bien, Seigneur, dans ta grâce, nous regardons vers toi. Regardez bien. Quand le prophète a mis les pieds dans l'eau, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Nous sommes d'accord? Un peu plus haut. Et puis, il est arrivé à un moment donné, quand il est arrivé à 4000. Oui, il fallait nager, ça veut dire qu'il avait de l'eau partout. Il était porté par les eaux. Eh bien, ceci nous apprend, frères et sœurs, que ça s'est passé à Jérusalem. Actes des apôtres. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il en reste combien de disciples, d'apôtres? 11. Quelque temps après, petit sondage, il y en a combien dans une chambre haute? 120. C'est déjà pas mal, hein? Ensuite, après la prédication de l'apôtre Pierre, il en vient combien? 3000. Tiens, ça monte. Ensuite, acte 4, il y a une guérison, il y a une prédication de l'apôtre, ça augmente de 5000. Vous voyez? Ça monte. Et après, il n'y a plus de chiffres, il y a... les croyants montaient de plus en plus. Et à un autre endroit, il écrit, et toute la ville fut remuée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ce qui prouve bien que la prophétie que vous avez lue, mes frères, se réalise par le ministère du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous montre que l'Esprit de Dieu nous dépasse, nous surpasse, et va infiniment au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. L'Écriture nous montre par là que rien ne peut résister au fleuve de Dieu, et ce fleuve, il est là, parce que c'est une personne, et cette personne, c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'est Dieu le Père. Ces trois personnes sont là, ensemble, pour former une seule à la gloire du Dieu vivant et vrai. Ah, mais c'est vrai. Vous dire que cela, mes frères et sœurs, c'est pas tout à fait juste. Faut pas oublier que, bon, il y a la mère morte, et puis il y a le prince de la mort. Hein? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bien, je vais vous l'expliquer. Formidable. Et vous, ce qu'il fait? Il va tenter le coup. Il va essayer de détruire l'Église. Il va essayer de créer la division entre les chrétiens au cours des siècles. Mais même encore aujourd'hui, ça existe, sauf ici parce que c'est parfait. Mais ça existe. La Bible nous dit, il viendra des moqueurs. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui, dans votre génération, des moqueurs? Bon, alors on continue. Il y aura des séducteurs. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Il y aura des faux prophètes. Qui sortiront non pas de l'athéisme, mais du christianisme. Des faux prophètes. Et l'apôtre Paul dit, veillez, parce que il y en a qui se lèveront devant vous, du milieu de vous. Et c'est vrai, frères, par pas d'ici, c'est vrai. Des faux prophètes, des fausses prophéties. Et ces docteurs sentent déjà l'enfer. Mais j'ai trouvé, je disais, Seigneur, c'est vrai, c'est tellement beau ça. Et puis, il m'a indiqué un petit verset d'Ésaïe 33, 21, où il est écrit que là où le fleuve de Dieu passe, les navires de guerre ne pourront pas rentrer. Et les navires de guerre qui veulent rentrer dans le cœur des enfants de Dieu, c'est les puissances démoniaques. Satan est jaloux, ma sœur, mon frère, jaloux. Il est jaloux de toi, il est jaloux de ta vie, il est jaloux de ta famille, il est jaloux parce qu'il sait que toi, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il est jaloux parce qu'il sait que toi, tu as une propriété là-haut. Il est jaloux parce qu'il sait que lui, il y a le feu qui l'attend. Il est jaloux, alors il met le paquet, il envoie ses phares, ces bateaux, il a beau hurler, il crie, aujourd'hui nous vivons dans ce monde-là où aujourd'hui il écrase tout. Seulement, je vais vous dire une chose. Il y a quelqu'un qui, sur la croix du calvaire, lui a écrasé la tête. Et ce quelqu'un, je le connais. Et ce quelqu'un, vous le connaissez. Qui le connaît? Qui le connaît? Moi! Alléluia! Il a écrasé la tête. Son nom, c'est Jésus. Et où l'a-t-il fait? À la croix du calvaire, les frères et sœurs. C'est pour ça que le fleuve, il sort de la croix. On peut pas séparer la croix du réveil. La croix et le Saint-Esprit, c'est lié ensemble. Et cela triomphe de la grâce de Dieu. Et si, par la grâce de Dieu, et je voudrais aussi souligner cette vérité, parce que ça s'impose à moi, Satan a la tête écrasée. La tête, mes frères et sœurs, c'est quoi? C'est là où l'on pense. Et je suis heureux de savoir que les pensées de Satan sont écrasées. Ses projets sont déjà écrasés. Ainsi, quand je lis ma Bible, j'entends l'apôtre Paul dire aux Romains, vous êtes assis, Romains 16, ceci, « Le Dieu de paix écrasera bientôt sous vos pieds, Satan sous vos pieds. » Sous vos pieds, voilà pourquoi il est jaloux. Alors, ma sœur, mon frère, ne baisse pas les bras, ne dis pas « Je ne prie plus, je ne viens plus, je lis plus ma Bible, je change d'assemblée parce qu'il y a plus de puissance là-bas. » C'est pas vrai, le fleuve de Dieu est là. Et celui qui a intérêt à vous faire partir ailleurs, c'est parce qu'il sent qu'il va être vaincu. Alors il désire tirer votre attention vers autre chose. Mes frères et sœurs, demeurez là. Demeurez là. D'où pour des frères de demeurer ensemble, c'est là qu'il envoie sa bénédiction. Mais c'est vrai, il n'y a pas d'église parfaite. Rien de parfait. Il y aura toujours des gens imparfaits. Mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est là que le Seigneur, dans sa grâce, vous a touché, vous a sauvé, a inscrit votre nom dans votre vie, dans le livre de vie. Et vous savez très bien que ce jour-là, dans cet endroit-là, à un moment précis, vous êtes nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes victimes d'un harcèlement diabolique. Il y a eu le Covid, il existe encore. Il y a eu la mort, je le disais tout à l'heure, la mort d'innocents, des bébés qui ne sont pas encore nés, on les tue. Les criminels, on les laisse vivre. Et c'est rien, enfin c'est rien, si, mais déjà, des éléments embrasés sont en train de s'approcher. Ça s'appelle l'atome. Et nous n'avons aucune crainte à avoir parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes! Ainsi, Satan peut essayer de nous faire peur. Par la grâce de Dieu, nous sommes vainqueurs. Mes frères et sœurs, l'Écriture le dit. Quelqu'un dira, oui, mais enfin, Satan est écrasé sous les pieds, sous la tête. Mais... La Bible dit, jeune homme, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Pourquoi? Parce que vous êtes fort. Pourquoi vous êtes fort? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. C'est ce qui fait notre force, n'est-ce pas, Claude? C'est ce qui fait notre force, mes frères et sœurs. C'est que la parole demeure en vous. Ne cédez à aucun moment de désobéir à la parole de Dieu. Tant que vous la gardez dans votre cœur, Satan est vaincu. Et par la grâce de Dieu, vous êtes plus que vainqueur. Question pour finir. Comment ça va à la maison? Où est ma mère morte? Où est le point noir qui me fait souffrir? Où est cette mère qui m'angoisse? J'ai mes bien-aimés, j'ai mes fils, mes filles, j'ai mon mari, j'ai ma femme, mes frères et sœurs. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Là où a lu le pasteur Claude. Vous l'avez? Est-ce que vous avez un pouce? Faites voir. Non. Qu'est-ce qu'il y a comme timide? Il y a un tas d'infirmes. Il y a des mains sans pouce ici. Moi, j'en ai deux, et vous? Bon. Vous avez un pouce. Je vous demande un pouce. Un pouce? D'accord. Ce pouce-là, vous allez le poser sur votre Bible. Non, n'ayez pas peur, c'est pas magique. C'est pour vous rappeler de quelque chose. Ce pouce-là, vous allez le marquer. Vous allez appuyer, je vérifie pour pas que je me trompe. Oui, oui. Vous allez bien l'appuyer sur le verset 6. Je vous laisse lire quelques secondes pour vous. Mettez votre pouce sur le verset 6. Maintenant, on va peut-être lire le verset 6. Votre avis ? Qu'est-ce que je raconte ? Non, non, oui, c'est ça. C'est sur le verset. Attendez. Voilà. C'est verset 8. Est-ce que tout le monde a le verset 8 ? Mettez votre doigt sur le verset 8. Lisez-le pour vous. Oui. Orient descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Et lorsque sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront. Mettez votre pouce là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une promesse? Vous y croyez? Relevez votre doigt. Est-ce que c'est encore écrit? Et qu'est-ce qui est encore écrit? Et les eaux de la mer deviendront saines. Et mon fils et ma fille opposée qui me font souffrir vont se tourner vers toi, Seigneur. Oui. Et mon corps malade va trouver la délivrance, et pourquoi pas? Et partout où cette eau passera, tout deviendra sain. Mes frères et sœurs, ce matin, comme tous les jours, attendez-vous à l'inattendu. Avec Dieu, c'est l'inattendu qui vous arrive toujours. Et ça vient de l'endroit que vous n'avez jamais imaginé. Vous allez quitter le culte, vous allez oublier 95% de ce que je vous ai dit, moi, mais gardez ce qui est écrit là, et gardez au moins cette vérité. Avec Dieu, tout est possible. L'inattendu se réalise toujours. Voulez-vous le croire? Alors on va courber nos fronts. Merci.